Radio Aigle, la radio multiculturelle.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Quentin, on va vous présenter l'émission qui va être spécialisée sur les nouvelles.
Déjà, Alexis, sais-tu ce que c'est une nouvelle ?
C'est un texte court de genre narratif qui est beaucoup plus court qu'une histoire normale. Il y a très peu de personnages et elle est généralement centrée sur un seul événement.
Tu vas voir, on va vous raconter plein de belles histoires.
Il y aura Isis et Vilma qui vont nous parler d'un collier mystérieux. Il y aura Léa et Amina qui vont nous parler de quatre petites histoires. Puis il y aura Nathaniel et Adil qui nous parleront de Barbe Bleue.
Et enfin, Johanna et Karina qui nous parleront d'argent.
À la technique, il y aura Florian et Guillaume.
Avant de commencer, on va écouter Ça marche de Maître Gims.
Ça marche. Je bosse, toi tu n'es pas de taille. Get up le son, vas-y tweet. Si t'as peur du vide, dégage boy. Laisse nous faire la zip. Je bosse, toi tu n'es pas de taille. Get up le son, vas-y tweet. Si t'as peur du vide, dégage boy. Laisse nous faire la zip. Dis-moi si elle est condée. J'sais plus sur qui compter. Marre de vagabonde. Ah, vagabonde. Megiwala, Megiwala. Megiwala, Megiwala. Megiwala, Megiwala.
Adjou Megui, maintenant t'en veux encore. Aussi convoité que cette putain de boîte à Pandore, yeah.
Si ça marche pour toi,
t'auras qu'à dire, bah c'est la vie.
Ça marche pour toi.
Je vous présente Paris, ma ville.
Ça marche pour toi.
Entre les bus et les vélos,
y'a grave le choix.
La vie est trop courte pour pouvoir profiter des bons moments. Si ça marche pour toi, ça marche pour Tal. T'inquiète, ta bande s'arrange. La vie est trop courte.
J'ai pas de crête, que je suis old fashion. Jordan, je vole ma gueule comme Michael. D'autre part, je suis orgasmique, hors d'atteinte. Oh, ta gueule, je me tape des barres quand t'as le seum. Je porte pas plainte si je me fais fumer en tête. Je marche rein, j'ai v'là les rêves dans ma tête. Je kiffe quand t'as bord ma gueule. Je porte mes yeux. Shinsekai, what you been, 9ème sous le dent ta gueule.
Ah. Si ça marche pour toi,
t'auras qu'à dire, bah c'est la vie.
Ça marche pour toi.
Je vous présente Paris, ma ville.
Ça marche pour toi.
Entre les bus et les vélos,
y'a grave le choix.
Certains m'appellent le fléau, ou Mugiwara Neo. Mon son provoque la fonce des. J'côtoie des gens blindés. Boss de la new generation. J'fais des sons comme personne. Doré, mi, fa, sol. Maéo.
Foutez-moi la paix, j'ai pas la tête à faire la fête. Je dis foutez-moi la paix, j'ai pas la tête à faire la fête. Foutez-moi la paix, j'ai pas la tête à faire la fête. Je dis foutez-moi la paix, j'ai pas la tête à faire la fête.
Ça marche pour toi.
T'auras qu'à dire, bah c'est la vie.
Ça marche pour toi.
Je vous présente Paris, ma ville.
Ça marche pour toi.
Entre les bus et les vélos,
y'a grave le choix. Si ça marche pour toi.
Pour commencer, nous allons écouter Isis et Vilma qui vont nous parler d'une nouvelle policière.
Oui, écoutez bien. Un collier va disparaître mystérieusement.
Vous aimez la lecture ? Vous aimez les mots ? Vous aimez les belles histoires ? Alors écoutez, sans attendre, la rubrique littérature.
Hey Isis, il y a une nouvelle qui est très intéressante que tu lis en ce moment. Elle s'appelle comment déjà ?
C'est Le collier de la reine. J'ai beaucoup aimé, c'est Maurice Leblanc qui l'a écrit.
Il a fait beaucoup de nouvelles comme La perle rare, La lettre d'amour du roi Georges. Tu sais des choses sur lui ?
Oui, bien sûr. Il est né en 1864 à Rouen. C'était le fils d'un amateur et sa mère est morte en 1885. Il avait aussi une sœur qui était chanteuse. Il a décidé d'aller écrire contre la volonté de son père, Maurice, à travailler comme journaliste puis en tant que romancier. Et il a écrit de courtes histoires sur des crimes et des aventures. En 1941, il est mort et enterré sur le cimetière de Montparnasse à Paris.
Et c'est quel genre de récit ?
C'est un court récit policier. Il y a une longue enquête durant toute la nouvelle.
Ah, d'accord. Et en fait, explique-moi un peu l'histoire.
Alors, l'histoire se déroule en Autriche 2 ou 3 fois par an. La comtesse de Dessoubis portait le collier de la reine. C'était un collier légendaire qui avait été offert à Marie-Antoinette, reine de la France. La comtesse l'avait porté à l'occasion d'une grande cérémonie. Avant de se coucher, elle le confie à son mari qui le met dans un petit cabinet qui se ferme avec un verrou comme d'habitude. Mais le lendemain, la comtesse ne trouve pas le collier. Elle crut au début que c'était son amie d'enfance Henriette qui l'avait volé, mais ce n'était pas elle. Donc ils continuèrent d'enquêter jusqu'à ce qu'ils découvrent que c'était monsieur et madame Dreux, amis de la reine, qui l'avaient vendu parce qu'ils n'avaient presque plus d'argent.
Et ça se finit comme ça ?
Ah non, la comtesse avait reçu une lettre d'Henriette qui la remerciait sur beaucoup de choses alors que la comtesse l'avait renvoyée de chez elle. Ce qui n'était pas normal, mais Henriette mourut quelque temps après, donc le mystère demeura introuvable. Pour oublier cette histoire, ils organisèrent une soirée entre amis, mais c'est à cette soirée que la comtesse sut.
Que la comtesse sut ?
Ah, si tu veux savoir la suite, il faudra lire la nouvelle.
Ouais, mais je l'ai déjà lu, ça surprend surtout la fin. Mais quand j'ai lu l'histoire, ce n'était pas du tout du langage familier, mais plutôt soutenu. Au début, c'était un peu difficile, mais on s'est habitué par la suite.
Oui, c'est vrai. Combien y a-t-il de personnages dans l'histoire ?
Alors, il y a la comtesse de Dreux-Soubise. Elle a un bon cœur, mais elle est injuste envers les gens. Florian, qui apparaîtra à la fin de l'histoire, c'est le fils d'Henriette. Il aime beaucoup sa mère et la protège. Henriette, l'amie d'enfance de la comtesse, qui est aussi veuve, douce et gentille. Arsène Lupin, qui est la personne qui a trouvé le collier et qui l'a ramené au commissariat. Il a aidé la veuve et son fils. Le mari de la comtesse, monsieur Dreux-Soubise, qui est fier de sa femme, et il a le même caractère qu'elle.
Mais dans l'histoire, quel était le problème ?
C'était le collier, car en premier, c'était un collier légendaire et il appartenait à la reine de la France, donc c'est normal que beaucoup de personnes voulaient le vendre ou le voler.
Ok, qu'as-tu aimé dans l'histoire ?
J'ai tout aimé, c'était intéressant, mais celui que je préfère, c'est Arsène Lupin, car c'est quelqu'un de très charmant et qui aide les personnes et il est très intelligent.
Moi aussi, mais je préfère d'autres livres car je n'aime pas trop les enquêtes.
Oui, et t'as aimé quel passage dans le livre ?
C'est quand la comtesse lit la lettre d'Henriette. « Madame, je ne sais pas comment vous remercier, car c'est bien vous, n'est-ce pas, qui m'avez envoyé cela ? Cela ne peut être que vous. Personne d'autre ne connaît ma retraite au fond de ce petit village. Si je me trompe, excusez-moi et retenez du moins l'expression de ma reconnaissance pour vos bontés passées. »
J'espère que notre émission vous a plu et à bientôt.
Et nous vous quittons avec « Gentleman Cambrioleur » de Jacques Dutronc.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter. Il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. S'empare de vos valeurs.
Ah, ça m'a donné envie de lire cette nouvelle.
Pareil pour moi. Maintenant, Léa et Amina vont nous raconter une nouvelle qui contient elle-même quatre petites histoires qui parlent toutes de mots. Mais laissons Léa et Amina nous en parler.
Hé, hey, je vois que tu lis quelque chose. C'est quoi ?
Je lis une nouvelle qu'on va présenter.
Ah ouais, elle s'appelle La magie des mots.
Et dans cette nouvelle, il y a quatre petites histoires modernes. C'est des histoires de nos jours.
Le supermarché des mots, l'invention impossible.
Ensuite, il y a le pays le plus injuste au monde et sans prénom fixe.
Et quel est l'auteur de toutes ces petites histoires ?
C'est Marcello Argili. Il est d'origine italienne.
Il est né en 1925 à Rome.
Il est encore vivant ?
Non, malheureusement, il est décédé en 2007.
Ah, ça fait un moment. Et explique-nous comment il a commencé à écrire des nouvelles.
Au début, il était journaliste pour la presse et la télévision. Puis il a commencé à écrire des histoires pour les petits.
Ah, d'accord. Donc maintenant, nous commençons par vous raconter la première histoire.
Ok, alors la première histoire dont on va parler est le supermarché des mots.
Ça parle de quoi ?
Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon appelé Daniel qui s'achète des mots avec son argent de poche.
Quoi ? Il va acheter des mots ?
Oui, car dans son pays, les mots s'achètent pour réussir dans la vie, pour être plus cultivé.
Étrange.
En fait, dans ce supermarché, il y a différents genres de mots. Il y a plusieurs rayons. Exemple, le rayon des verbes pour décrire quelque chose ou le rayon des gros mots. Puis il y a les mots avec les fautes d'orthographe. Ils sont moins chers que les autres qui sont bien écrits.
Et ses parents lui disent quoi ?
Eux, ils lui conseillent d'avoir beaucoup de mots pour réussir dans sa vie.
Tu as un exemple de mot qu'il y a dans le livre ?
Alors, le mot nyctalope.
Quoi ? Mais comment tu parles, nyctalope ?
Mais non, ce n'est pas ce que tu crois. Ça ne s'écrit pas comme tu penses et ça n'a pas la même signification.
Ouf, j'ai eu peur. Alors ça s'écrit comment et ça veut dire quoi ?
Alors, ça s'écrit N-Y-C-T-A-L-O-P-E. Nyctalope, qui veut dire en médecine qui voit dans la nuit. La chouette est un oiseau nyctalope.
Ah, c'est intéressant quand même. Je pensais que tu disais un gros mot. C'est quand même bizarre.
Et non, ce n'est pas un gros mot.
Alors la deuxième histoire, c'est l'invention impossible.
Ok, l'invention impossible, c'est du genre un scientifique qui fait quelque chose d'extraordinaire ?
Ouais, on peut dire ça comme ça. Sauf que c'est pas un scientifique, c'est un homme qui s'appelle Professeur Phoneticus. Très intelligent, il a eu une idée géniale.
Phoneticus, genre phonétique ?
Oui, c'est ça, t'as tout compris. Alors comme je disais, une idée géniale, pas comme les autres. Il s'était creusé la tête pendant longtemps pour avoir cette idée. Il voulait inventer une nouvelle lettre dans l'alphabet. Il faisait plein de dessins pour savoir comment allait être sa nouvelle lettre. Mais le plus important était de lui trouver un son.
C'est une idée extra, franchement. Ça doit être un fou, ce monsieur Phoneticus. Il a quand même eu une idée bizarre. On n'a pas ce genre d'idée tous les jours.
Maintenant, je vais vous lire un extrait de cette nouvelle. Après s'être creusé la cervelle pendant des années, il eut finalement l'idée géniale, inégalable, absolument originale. Il allait inventer une nouvelle lettre de l'alphabet. Personne dans toute l'histoire de l'humanité n'y avait jamais pensé. Non seulement il passerait à la postérité, mais il deviendrait très riche. Dès que sa nouvelle lettre sera brevetée, quiconque s'en servira devrait lui payer les droits de l'auteur.
Il a trouvé ?
Il a trouvé le dessin de la lettre, mais pas le son.
Celui qui arrivera sera très fort. Et maintenant, vous allez écouter les gestes, pas les mots de Nadia.
Tu peux me dire tes sentiments, me les jurer ou prêter serment. C'est pour la vie où je t'attends, ça reste du vent. Tu peux m'écrire tous les poèmes, me déclarer encore que tu m'aimes. Ça te suffit de temps en temps, mais moi pas vraiment. C'est les gestes, pas les mots dont j'ai besoin pour être bien. C'est des gestes qu'il me faut et qui nous font défaut. C'est les gestes, pas les mots, que l'on fait juste comme ça pour rien, parce qu'ils en disent bien plus long qu'on les retient. Tu peux me dire les raisons, faire des excuses, des comparaisons. Je t'ai menti, demande pardon. Ça change quoi au fond? Je peux même lire dans ton regard, trouver trouver des ruses pour encore te croire. C'est toujours fuir les bonnes questions et tourner en rond. C'est des gestes, pas des mots dont j'ai besoin pour être bien. C'est des gestes qu'il me faut et qui nous font défaut. C'est des gestes, pas des mots que l'on fait juste comme ça pour rien. Parce qu'ils en disent bien plus long qu'on les retient. C'est les gestes, pas des mots dont j'ai besoin pour être bien. C'est des gestes qu'il me faut et qui nous font défaut. C'est les gestes, pas des mots que l'on fait juste comme ça pour rien. Parce qu'ils en disent bien plus long qu'on les retient.
Après cet intermède musical, c'était quoi l'histoire suivante? Le pays... Oh, je sais plus.
Ah oui, le pays le plus injuste du monde.
C'est quoi? Il y a tout le monde qui pleure là-bas?
Mais non, en fait, dans le pays de Robert, les majuscules n'existent pas. Tout est en minuscules.
Ah ouais, c'est quand même triste tout ça. Sans respect les gens, puisqu'ils ne mettent pas de majuscules. La majuscule, c'est un signe de respect.
Attends, laisse-moi finir. Les seules personnes qui mettaient des majuscules étaient les présidents. Puis les personnes en avaient marre. Elles ne voulaient plus vivre en minuscules, donc elles se sont révoltées. Depuis cette révolution, tout le monde vit en majuscules, du coup.
Intéressante ton histoire. Ça finit bien, quand même. Du coup, tout le monde est content.
Oui, c'est sûr. Ce n'est plus le pays le plus injuste du monde.
Ah oui, Léa, il nous reste encore une histoire.
Ah bon? Laquelle?
Son prénom fixe.
Ah ouais, j'avais complètement oublié. Alors, raconte-moi.
Tout de suite. Alors en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne trouvait pas normal que chacun de nous ait un prénom qui nous est donné à la naissance, sans pouvoir le choisir. Alors, elle se donne des nouveaux prénoms, par jour, selon son humeur. Parfois, elle s'appelait Gisèle, ou quand elle était triste, elle s'appelait Dolores, et ainsi de suite. Et sur sa carte d'identité, c'était écrit son prénom fixe, et personne ne lui disait rien.
Elle est quand même bizarre ton histoire. C'est impressionnant, des fois elle doit même plus savoir comment elle s'appelle.
Ah ouais, surtout pour les gens, ils ne doivent même plus savoir comment l'appeler.
Mais c'est vrai que notre prénom, il nous est imposé.
Il te plaît, toi, ton prénom?
Oui, bien sûr, et le tien?
Je trouve qu'il me va bien, j'ai pas envie de changer de prénom.
Eh bien, elles étaient intéressantes, ces histoires.
Ouais, très intéressantes. J'ai bien aimé, et toi?
Oui, elles sont irréelles, mais bien écrites.
Ça, tu peux le dire. Alors maintenant, vous allez écouter James Arthur Impossible.
I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Falling out of love is high. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing was. Empty promises will wear. I know when now. When all is done there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, I was happy.
ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know.
Radio Aigle, la radio multiculturelle.
J'ai bien aimé ces quatre nouvelles, toutes avec le thème des mots.
Et maintenant, Adil et Nathaniel vont nous parler de leur nouvelle qui a été écrite par un écrivain célèbre.
Qui ? Je vois pas.
Le petit chaperon rouge, ça ne te dit rien ?
Ah bah oui, Charles Perrault.
Oui, mais ils vont pas nous raconter le petit chaperon rouge.
La Belle au bois dormant ?
Non, tu y es pas. Allez, je t'aide, il fait peur.
Je vois pas.
T'es sérieux ? Là, je te donne un dernier indice. Il a une barbe.
Ah, bah, barbe bleue.
Salut Nathaniel, c'est la première fois qu'on passe dans la rubrique littérature. Est-ce que tu sais de quoi on parle aujourd'hui ?
Oui, on va parler de Barbe bleue, un conte de Charles Perrault, un écrivain du XVIIe siècle, lors du règne de Louis XIV. Né le 12 janvier 1628 à Paris, il est le cadet d'une famille bourgeoise de 7 enfants. Il commence à écrire ses contes en 1691 à 63 ans, quelques temps après le décès de sa femme. Charles Perrault est aussi connu pour d'autres contes. La Belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, Le chaboté et Le petit poussé.
Maintenant, nous allons commencer à parler de la nouvelle. Le genre de l'histoire, c'est du fantastique. Ça parle du mariage du point de vue de la femme. Le personnage principal, comme l'indique le nom de l'histoire, se nomme Barbe bleue, simplement car sa barbe est bleue. Les gens ont peur de lui à cause de cette couleur bizarre, parce que ça le rendait laid et horrible, mais aussi parce qu'il a déjà eu plusieurs femmes avant et on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. On ne sait pas grand-chose sur le physique des personnages.
Les autres personnages sont la voisine, dont on ne sait pas le nom, sa fille aînée qui se nomme Anne, et sa fille cadette qui sera la future femme de Barbe bleue, et le trouvait effrayant au début car il a déjà eu plusieurs femmes et on ne sait plus rien d'elles.
L'histoire se passe dans une ville et à la campagne, mais aussi dans la maison de Barbe bleue après son mariage. Il n'y a pas plus de précision. La compréhension du texte est plutôt facile, écrite dans un langage courant. Les problèmes soulevés par la nouvelle sont le doute, la confiance, la désobéissance, la curiosité, l'horreur et aussi le meurtre.
Le récit raconte l'histoire d'un homme dont tout le monde a peur à cause de sa barbe bleue qui le rendait laid. Un jour, il demande la main à une des deux filles de sa voisine. Celle-ci pouvait choisir laquelle des deux elle voulait marier, mais toutes les deux refusent. Il décide alors d'organiser une sortie avec elle et après s'être amusé, la fille cadette décide de se marier avec.
La suite de l'histoire se déroule après le mariage. Barbe bleue doit se rendre en province pour une affaire et laisse un trousseau de clés à sa femme en lui interdisant d'aller dans la cave, puis s'en va. Trop curieuse, sa femme décide de quand même descendre. Après quelques secondes d'hésitation, elle finit par l'ouvrir et là, elle découvre les cadavres de ses anciennes femmes qu'il a sûrement tuées lui-même.
Beaucoup trop effrayée, elle sort de la cave et se rend compte que la clé s'est détachée de sang et essaie de la nettoyer. Pas de chance, ça ne s'efface pas, car la clé était faillie. Comme ils le disent, du coup, lorsqu'on essaie de la nettoyer, le sang revient de l'autre côté. Barbe bleue rentre le soir même et lui demande la clé. La première fois, elle lui répond qu'elle l'a oubliée sur la table en haut et donc lui demande de lui la donner la prochaine fois.
Après quelques rappels, Barbe bleue exige la clé et sa femme monte dans sa chambre pour la ramener. Après quelques minutes d'hésitation, elle descend rendre la clé à son mari. Calmement, il lui dit qu'elle doit mourir en lui laissant un demi-quart d'heure pour faire ses prières.
Pour savoir la suite, à vous de le découvrir en lisant la nouvelle. La nouvelle était intéressante, même si Barbe bleue est un peu idiot d'avoir donné la clé à sa femme s'il ne voulait pas qu'elle aille dans la cave. C'était peut-être une raison de la tuer, ou tout simplement de lui faire confiance. C'est aussi bête de ne pas avoir enterré ses femmes à quelques kilomètres de la maison, comme ça, personne ne saurait qui les avait tués et encore, il faudrait les retrouver.
Maintenant, je vais vous lire un passage du livre. Elle fut si pressée de sa curiosité que sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé et avec tant de précipitation, elle pensa se rompre le cou deux ou trois fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commençait à voir que le plancher était tout couvert de son cahier et que dans ce son se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'était toutes les femmes que la Barbe Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu, mais elle ne pouvait venir à bout tant elle était émue.
On va maintenant vous faire écouter la musique du film Le Grand Bleu, car nous n'avons pas trouvé de musique en lien avec Barbe Bleue, mais vu que les deux titres se ressemblent, on s'est dit que ça irait bien.
C'est chaud de tuer toutes ces femmes et de les mettre dans sa cave.
Ouais, surtout qu'il ne les enterre même pas. Je me demande comment personne n'a pu sentir des odeurs.
Ouais, c'est bizarre, mais bref, passons à autre chose.
Johanna et Karina vont nous parler de trois nouvelles qui parlent d'argent.
L'argent.
Sans argent, on ne fait rien.
J'espère que c'est pas une histoire à deux balles.
L'argent est souvent source de conflits.
Bon, écoutons les filles.
Vous aimez la lecture ? Vous aimez les mots ? Vous aimez les belles histoires ? Alors écoutez, sans attendre, la rubrique littérature.
Salut Karina, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
Coucou Johanna, nous allons parler de trois nouvelles. La vie chère, l'homme le plus malchanceux du monde et les enfants grandissent-ils ?
Oui, et le thème de ces nouvelles est le temps, c'est de l'argent.
D'accord, tu peux nous parler de l'auteur de ces nouvelles ?
L'auteur de ces nouvelles s'appelle Marcello Arghilli. Il est né en 1925 à Rome, en Italie. Il est devenu écrivain en 1951 après avoir rencontré Gianni Rodari. Il a été journaliste de presse et de télévision. Quel est le genre de ces nouvelles ?
Le genre de ces nouvelles, c'est des histoires totalement imaginaires dont l'auteur va nous parler des problèmes de société. Passons à la première nouvelle.
Fais-nous un résumé de La vie chère.
C'est l'histoire de Paul et Sophie, qui sont frères et sœurs. Un soir, ils ont vu leurs parents et ils ont été étonnés à quel point ils avaient vieilli en seulement quelques heures.
Pourquoi ils ont vieilli en si peu de temps ?
Parce que dans ce pays, tout le monde pouvait vendre son sang ou son rein. Mais les acheteurs devaient payer en années de vie. Tu pourrais lire cet extrait ?
Oui. Dans ce pays, non seulement il était permis de vendre son sang ou un rein, ou la cornée d'un œil, mais depuis qu'on avait inventé la transfusion des années, on voyait apparaître dans les journaux des petites annonces qui disaient « Urgent, affaire à saisir, suis acheteur ». L'acheteur en question précisait combien d'années il désirait acquérir et à quel prix. Ceux qui avaient besoin d'argent répondaient à l'annonce, passaient un contrat en règle et dès la fin de la transfusion étaient payés comptant.
Tu as aimé cette nouvelle ?
Oui, car il y a un peu de suspense, et toi ?
Moi aussi, car c'est étrange de vendre des organes ou du sang pour avoir plus d'années de vie.
Passons à la deuxième nouvelle, l'homme le plus malchanceux du monde.
Fais-nous un résumé.
C'est l'histoire de Serge qui a acheté une montre dernier modèle. Ce n'était pas une montre comme les autres. Elle pouvait marquer les secondes, les minutes, les heures, mais aussi les jours, le mois, l'année, les éclipses et le passage des comètes. Mais celle de Serge, elle s'était arrêtée en même pas une semaine et à partir de là, Serge n'avait que des ennuis.
Des ennuis ? Pourquoi ?
Car sa montre ne marchait pas bien et la date et l'heure étaient fausses, donc il arrivait soit plus tôt, soit trop tard au travail, ou bien il portait des habits pas adaptés pour les saisons.
C'est pas très pratique comme montre. Mais j'ai beaucoup aimé cette nouvelle.
Moi aussi, car ça peut arriver à n'importe qui que sa montre ne marche pas et qu'on ne se rende pas compte. Passons à la troisième nouvelle, les enfants grandissent-ils ?
C'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Olivier et qui pensait qu'il ne grandissait pas. Mais sa mère le rassurait toujours, elle le mesurait tous les 6 mois et elle mettait une marque sur le mur pour lui prouver qu'il grandissait toujours. Mais un jour, il demande à ses amis s'il a grandi et ils lui ont répondu non.
Et alors ?
Donc, il croyait qu'il ne grandissait pas, mais que c'était les murs qui rapetissaient.
Elle est étrange, cette histoire, mais elle est drôle.
Ouais, elle est cool. Je pense que c'est mon histoire préférée. Et toi, quelle a été ta nouvelle préférée ?
Moi, c'est La vie chère, car c'est une histoire avec un peu de suspense au début. Et ici, on ne vend pas des organes pour avoir des années de vie.
Moi, j'aime bien Les enfants grandissent-ils, car c'est drôle que l'enfant croit que c'est les murs qui rapetissent.
Tu trouves qu'il y a un lien entre les trois nouvelles et le thème « Le temps, c'est de l'argent » ?
Oui, car les trois parlent du temps et de l'argent. Exemple, la vie chère, les parents vieillissent très vite parce qu'ils payent en années de vie. L'homme le plus malchanceux, il paye sa montre et dans l'histoire, on parle du temps, de l'heure et de la date. Les enfants grandissent-ils ? Dans l'histoire, l'enfant croit qu'il ne grandit pas, mais tous les 6 mois, sa mère le mesure.
En fait, dans les trois nouvelles, ça parle du temps et de l'argent.
Oui, alors comme ça parle d'argent, écoutons Money de ABBA.
I have a plan. free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same.
Et voilà, c'est fini. On remercie Léa, Amina, Vilma, Isis, Adil, Nathaniel, Johanna et Karina pour les lectures de ces nouvelles. On remercie aussi Guillaume et Florian pour la technique.
Vous pouvez nous écouter sur radioblues.fm.
Nous sommes une classe de 11 VG du Collège d'Aigle et nous avons étudié ces nouvelles en cours de français. Et contrairement à la chanson de Johnny Hallyday qu'on va écouter, nous ne sommes pas dans un pénitencier.
Bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini.
Radio Aigle, la radio multiculturelle.